Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
En chantier depuis 2009, le projet a finalement abouti. Pour la première fois, le Saint-Siège aura un pavillon à la prochaine Biennale d'art de Venise qui s'ouvre le 1er juin. Une occasion importante pour retisser le rapport entre foi et art. Nous en parlerons dès le début de ce magazine. Encore une étape importante sur le chemin de la réconciliation entre catholiques et orthodoxes. Le patriarche œcuménique de Constantinople et le cardinal Angelo Scola dialogueront en public sur la liberté religieuse et la prière. C'est l'un des temps forts des commémorations de l'édit de Milan. Au Nigeria, un évêque accuse le parti au pouvoir de ne pas prendre de mesures efficaces pour lutter contre Boko Haram par peur des retombées électorales. Le gouvernement, selon lui, ne veut pas irriter les électeurs du Nord qui sympathisent avec les extrémistes. Pour la première fois de son histoire, la Biennale d'art de Venise va accueillir un pavillon du Saint-Siège. Le Vatican a choisi le thème de la création pour cet événement inédit qui se tiendra à l'Arsenal de Venise du 1er juin au 24 novembre 2013. L'initiative a été présentée en conférence de presse ce mardi matin par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture, ainsi que par le directeur des musées du Vatican et par le président de la Biennale, Thomas Chabol.
Trois artistes de renom ont accepté de relever le défi lancé par le Vatican. Les Italiens Studio Azzurro, le Tchèque Joseph Kudelka et l'Américain Lawrence Carroll. Une condition seulement pour ces trois créateurs, leur travail doit s'inspirer des 11 chapitres du récit biblique de la Genèse. Les œuvres sélectionnées doivent également dialoguer entre elles. Ainsi, le thème de la création, qui relate la création du monde et des êtres vivants, a été confié au groupe Studio Azzurro, dont le travail est essentiellement basé sur la vidéo. Le célèbre photographe Joseph Kudelka a puisé son inspiration autour du thème de la décréation qui raconte la destruction éthique et matérielle par l'homme. Enfin, la recréation est l'œuvre de l'Américain d'origine australienne Lawrence Carroll, un artiste proche du mouvement de l'Arte Povera, travaillant avec des matériaux de récupération. Pour le cardinal Ravasi, l'objectif était de laisser le plus d'espace possible à la création.
Noi, nel padiglione della Biennale di Venezia, non presenteremo opere destinate.
Les œuvres que nous avons commandées aux artistes ne sont pas à considérer comme de l'art liturgique. Nous ne leur avons pas demandé de créer trois crucifix ou trois madones. Pour le cardinal Ravasi, il s'agit de faire réfléchir sur le lien entre les messages religieux et l'art, sur un texte commun au christianisme et au judaïsme qui parle aux croyants de toutes les religions, aux agnostiques et aux athées, un texte universel qui puisse dialoguer avec l'art contemporain, une façon aussi pour l'Église de reprendre contact avec l'art.
Con un'arte che ha una nuova grammatica espressiva.
L'art contemporain présente aujourd'hui de nouveaux codes linguistiques, une nouvelle grammaire, de nouvelles typologies d'expression. C'est pour cette raison que notre participation à la Biennale est importante. Cette expérience rejoint l'ancienne tradition entre art et foi, jumeaux sur le chemin de la culture. Le pavillon du Saint-Siège s'étendra sur 500 mètres carrés d'exposition avec son ensemble d'œuvres exceptionnelles. Pour un coût total prévisionnel bas de 750 000 euros, une somme entièrement couverte par les sponsors, dont la banque Intesa San Paolo et le groupe gazier italien Eni. La presse italienne avait évoqué ces jours-ci une dépense de plusieurs millions d'euros par le Vatican pour cette participation. Des chiffres démentis par le Saint-Siège.
Et nous restons dans le domaine de l'art, une fois n'est pas coutume, pour vous parler d'une initiative originale visant à aider les profanes à découvrir et comprendre le travail des restaurateurs. La déposition de la croix de Giorgio Vasari et la Madeleine repentante du Caravage, ces deux chefs-d'œuvre de la peinture italienne ont subi les outrages du temps et avaient besoin d'être restaurés. La galerie Doria Pamphili à Rome et l'association Verde Rame, Projet Culture, ont alors décidé de s'associer pour tenter une expérience inédite, restaurer les toiles sous l'œil des visiteurs. Cela permet à tous les curieux de voir l'état d'avancement des travaux, de découvrir comment les restaurateurs travaillent, de mettre en relation les disciplines impliquées et de faire dialoguer les autres arts, car les peintres et leur œuvre sont aussi le fruit d'un contexte culturel, politique et social bien particulier. Xavier Sartre a eu la chance de passer au-delà de la vitre qui sépare les restaurateurs du grand public et de suivre ce travail méticuleux et passionnant.
galerie Doria Pamphili, une des plus anciennes galeries de peinture au monde, située dans un palais romain des 16e, 17e et 18e siècles. Un lieu impressionnant qui appartient d'ailleurs toujours à la famille Doria Pamphili. En fait, les visiteurs admirent la collection privée des princes, l'une des plus exceptionnelles au monde. Et comme dans tout palais et qui se respecte, c'est une cour d'honneur. Une fois gravi un majestueux escalier, on traverse une série de salles richement décorées de tentures, de lustres en cristal, de salons en parquet, salons en marbre. Puis, soudain, là, des galeries recouvertes de tableaux. Il y en a partout, quasiment du sol au plafond. On fait le tour de la cour, on entend la rumeur de la rue, on est au premier étage et là, dans le fond, dans une salle à demi plongée dans l'obscurité, la déposition de la croix de Vasari. C'est là que, avec la Madeleine du Caravage, les restaurateurs entreprennent leur travail de fourmi, un travail minutieux qui allie les techniques les plus modernes à l'habileté irremplaçable des doigts. Et bien, tout ce travail, les visiteurs peuvent l'admirer derrière une plaque transparente qui barre l'accès au lieu de restauration. Il reste en fait quelques mètres des experts, mais suffisamment près pour suivre l'évolution de la restauration. Une première.
Io sono Paolo Roma.
Je m'appelle Paolo Roma, je suis restaurateur. On prend des mélanges solvants contenus dans des flacons avec des paramètres de solvabilité standardisés pour voir quelle est la solvabilité du vernis qui se trouve sur la pellicule picturale du tableau de Caravage, la Madeleine.
Dipinto di Caravaggio, la Maddalena. Stiamo utilizzando una miscela a base di etanolo e ligroina.
On utilise un mélange à base d'éthanol et de liguline dans un rapport 40-60. La solubilisation est partielle, donc il va falloir essayer un autre mélange avec une polarité plus grande.
Parametri di solubilità con una polarità maggiore.
Come fate a sapere?
Comment savez-vous quel mélange utiliser?
Il procedimento è un procedimento empirico legato al.
Le procédé est empirique. Il est lié à la sensibilité du restaurateur. L'objectif est d'amincir les vernis pour retrouver le bon rapport chromatique entre la peinture du fond du tableau, mais aussi le bon rapport volumétrique entre les parties de l'œuvre, afin que les clairs et les obscurs soient en équilibre et que la tridimensionnalité du sujet représenté soit réellement expressive.
Siano in equilibrio in modo che la tridimensionalità del soggetto raffigurato sia realmente espressiva.
Marco Cardinali, sono uno storico dell'arte che si occupa di indagini scientifiche sulle opere d'arte.
Je m'appelle Marco Cardinali, je m'occupe d'enquêtes scientifiques sur les œuvres d'art et je suis membre du projet culturel Verderame. Notre idée, que nous pensons être innovante, et de transformer le travail de restauration en un événement culturel multidisciplinaire qui favorise le dialogue. Choisir deux œuvres et les confronter durant la restauration, c'est croire que deux œuvres peuvent vraiment se parler entre elles, apportant l'une à l'autre ce que sont la culture et le monde auquel a appartenu leur créateur, mais aussi ceux qui les ont commissionnés et qui ont, d'une certaine manière, croisé le monde, qui les ont vus grandir et vivre.
Che hanno in qualche modo incrociato il mondo che le ha viste crescere e vivere. In questo dialogo qualsiasi prospettiva ha pari dignità.
Dans ce dialogue, toutes les perspectives sont légitimes. Les musiques, l'histoire de la musique. Durant les 50 ans qui séparent Caravage de Vasari, on assiste au passage de la polyphonie à la monodie. On peut parler aussi de l'approche et du rapport à la nature avec le réel qui fait du Caravage un grand révolutionnaire, le résultat de l'histoire de découvertes scientifiques et de différentes manières d'affronter la nature.
Et di diversi modi di affrontare la natura.
La restauration de l'œuvre de Vasari se poursuivra jusqu'en juin. C'est elle qui réclame le plus de soins de la part des restaurateurs. Elle retrouvera ensuite sa place sur le mur d'une salle, elle aussi garnie de peintures du sol au plafond. Une peinture qui disputera les faveurs des yeux des visiteurs avec deux Caravages.
le prieur général de la communauté Saint-Jean, parfois plus connu sous le nom de Petit Gris, a informé ses frères de l'existence de témoignages convergents et crédibles sur les manquements à la chasteté de leur fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, auprès de femmes adultes dont il était l'accompagnateur spirituel. Ces gestes contraires à la chasteté ont été évoqués devant l'ensemble des frères délégués au chapitre général de la congrégation qui s'est tenu au mois d'avril. Jean-Baptiste Cocagne.
Frère Thomas Joachim a écrit à tous les frères pour les appeler à un regard vrai et lucide sur eux-mêmes et leur histoire. Les faits reprochés au père Philippe sont graves. Les cas se comptent entre 5 et 10, selon le porte-parole de la communauté, le frère Renaud Marie. Le premier pas face aux difficultés, écrit le prieur, citant le pape François, c'est de bien les regarder, en parler et jamais de les cacher. Néanmoins, le père Thomas Joachim demande à ses frères de faire la part des choses quant à l'attitude à tenir face au fondateur, ne pas réduire un homme à ses fautes, honorer son charisme et son héritage intellectuel, tenir ensemble la vérité et la justice. C'est en 1975 que le père Marie-Dominique Philippe, dominicain au fort charisme intellectuel, a fondé la congrégation Saint-Jean, enviée pendant des décennies pour son développement et les succès de recrutement. Il était devenu une des grandes figures du catholicisme. Après sa mort en 2006, un discret travail d'inventaire a commencé, après la découverte de fautes dont s'étaient rendus coupables certains frères et qui avaient entamé la fiabilité et la réputation de la communauté. Mais l'objectif, selon le prieur, est aussi de rompre avec une forme d'orgueil spirituel de la congrégation et avec l'idéalisation dont son fondateur avait été l'objet.
Une nouvelle étape sur le chemin du rapprochement entre les églises catholiques et orthodoxes. Le patriarche œcuménique de Constantinople effectue une visite historique à Milan les 15 et 16 mai dans le cadre des commémorations du 1700e anniversaire de l'édit de Milan, une des premières affirmations de la liberté religieuse en Occident. Prima d'honneur de l'orthodoxie, Bartholoméos Ier a été invité par l'archevêque de Milan. Au centre de sa visite, une lecture magistrale à deux voix, mercredi avec le cardinal Scola, sur la liberté religieuse et la prière. Jeudi, ils présideront ensemble un office œcuménique en la basilique Saint-Ambroise. Dans une note, l'archidiocèse de Milan explique que l'objectif n'est pas seulement de célébrer un anniversaire historique, mais aussi de proposer à nouveau les énergies de la foi chrétienne du IVe siècle dans un contexte de profonde mutation culturelle. Prévue au mois de mars, cette visite avait été repoussée après la renonciation de Benoît XVI et la convocation du conclave. Bartholoméos Ier était en revanche venu à Rome, devenant ainsi le premier chef spirituel des chrétiens orthodoxes à assister à l'installation d'un pontife romain depuis le schisme de 1054. Je vous en parlais hier dans ce magazine, le Vatican a accueilli un séminaire sur l'éthique bancaire organisé par le Conseil pontifical Justice et Paix, réunissant des banquiers, des chefs d'entreprise et des économistes. Le Saint-Siège souhaite que la société civile, les États et les multinationales agissent de concert pour mettre en place un système financier orienté vers le bien commun. Mais comment faire? Les avis sont partagés. Antonino Gallofaro a interrogé un des animateurs du colloque, Pierre de Lauzin, directeur général adjoint de la Fédération bancaire française. Selon lui, les acteurs de la finance doivent s'autodiscipliner, mais pas seulement. Il faut aussi des règles.
Si vous ne comptez que sur la moralité des gens, évidemment, les bandits font ce qu'ils veulent. Donc ça ne suffit pas. Mais en même temps, si vous n'avez que des règles, ça ne suffit pas du tout non plus. Par exemple, pour la conduite sur la route, si vous ne comptiez que sur les policiers et que tout le monde faisait n'importe quoi en se rentrant dedans, ça ne marcherait pas non plus. Donc il y a à la fois un besoin d'intériorisation de règles et donc d'un changement culturel le plus large possible, qui peut être aussi d'ailleurs par la pression des clients, bien entendu. Et de notre côté, il faut des règles pour, je dirais, limiter les excès.
Le cardinal Turkson proposait une autorité supranationale. Ça a été un peu évoqué ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions?
Si vous régulez bien le marché dans un pays A, mais que le pays B autorise n'importe quoi, tout le monde va aller dans le second pays. Et donc le marché va se déplacer là où il est moins régulé, ce qui ne serait pas bon dans ce cas-là. De notre côté, bien entendu, il faut concevoir comment ça peut se faire au niveau international, et c'est pas facile de le faire de façon réaliste à partir de la réalité actuelle. Je prends par exemple l'Union européenne d'un côté ou les États-Unis de l'autre, définissent chacun de leur côté leurs règles. Il n'est pas très facile de les obliger à se mettre d'accord et puis à se mettre d'accord avec les autres pour des règles plus largement mondiales.
Qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Le marché financier, c'est un marché. Et un marché, il va dépendre des indications qui sont données. Chaque fois que vous achetez ou que vous vendez, vous envoyez une indication au marché. Donc il est très important que ces indications aillent dans un sens plus éthique, parce que du coup le résultat du marché sera plus éthique. Ce n'est pas suffisant, mais c'est tout à fait nécessaire. On est encore au début du processus. La plupart des fonds de gestion commune ne sont pas sur des critères dits éthiques. Et d'autre part, comme le rappelait le pape Benoît XVI, quand on parle d'éthique, il faut voir de quoi on parle. Si l'éthique, c'est uniquement l'environnement ou le travail, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il faut ça, bien sûr, mais il faut beaucoup d'autres choses. Il faut aller regarder la manière dont traite l'environnement politique, la société tout autour, les clients, les fournisseurs, les produits, et ainsi de suite.
Déjà des critiques forcément contre ce qu'on appelle la finance éthique. Hein. Gaëtan Mortier, un ancien analyste ISR, investissement socialement responsable, qui a écrit un bouquin. Pour lui, c'est comme le greenwashing, c'est que de la façade. Il y a une part de vrai, est-ce que c'est qu'une façade pour les clients? Crise économique oblige, il faut se refaire une image.
C'est vrai qu'il y a une partie de façade. Mais d'abord, le fait qu'il y ait une façade, je dirais, a presque l'avantage de l'hypocrisie, c'est qu'au moins vous reconnaissez qu'il y a un certain bien à quelque part. Donc ça met quand même un peu de pression. Deuxièmement, il parlait du rendement. Il est clair que si on investit, c'est pour avoir un certain rendement. Sinon, ce n'est pas de l'investissement. Alors bien entendu, il faut être responsable dans le rendement qu'on attend. Mais attendre un rendement zéro, c'est accepter qu'on gaspille l'argent. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de vouloir un rendement positif? Ça veut dire que ce que l'on investit produit plus que ce qu'on a mis au départ. Ce qui est évidemment le bien commun. C'est un bien commun de produire, ce n'est pas un bien commun de gaspiller des ressources. Parce que si vous perdez de l'argent, ça veut dire que vous avez mis plus de ressources que vous en retirez à la fin. Donc vous avez gaspillé, et ça, ce n'est pas bien non plus. Donc il y a aussi une attitude éthique à avoir par rapport à ce qu'on attend en termes de résultats.
C'était Pierre de Lauzin, directeur général adjoint de la Fédération bancaire française. Au Nigeria, le parti au pouvoir ne déploie pas les moyens nécessaires pour lutter contre Boko Haram parce qu'il a peur que cela lui fasse perdre des voix aux prochaines élections générales de 2015. C'est l'accusation lancée lundi par l'évêque de Yola au cours d'une rencontre avec une délégation internationale de la fondation AED, aide à l'église en détresse, actuellement en visite au Nigeria. Monseigneur Stéphane Dami Mamza accuse le gouvernement de Goodluck Jonathan de ne pas en faire assez pour combattre les talibans africains et d'autres groupes de militants qui sont en train de plonger le Nigeria dans le chaos le plus total. Il n'est pas dans l'impossibilité ni dans l'incapacité de le faire, explique-t-il. Il s'agit tout simplement d'un calcul préélectoral. L'évêque de Yola pense qu'il faudrait déclarer l'état d'urgence dans le nord-est du pays et placer la région sous contrôle militaire. C'est selon lui la seule solution pour empêcher les attentats. Son avis n'est pas partagé par les ONG dont la Croix-Rouge qui accuse régulièrement les militaires nigérians de commettre eux aussi des exactions. Selon Human Rights Watch, les violences liées à cette insurrection et à sa répression par l'armée ont fait 3 600 morts depuis 2009. La situation est particulièrement dramatique dans les zones rurales qui échappent à tout contrôle. En Irak, depuis la chute de Saddam Hussein, près de 80% des chrétiens ont fui le pays, près d'un millier de chrétiens ont trouvé la mort et 60 églises ont été la cible des extrémistes. On peut sans aucun doute affirmer que l'Irak vit son hiver arabe, a confié à l'agence APIC le père Paulus Sati, jeune religieux rédemptoriste chaldéen originaire de Mossoul, actuellement responsable de la communauté chaldéenne d'Anvers, en Belgique. Selon lui, les terroristes bénéficient de complicité au sein des forces de sécurité. À Mossoul, les catholiques n'osent pas sortir de chez eux et vivent terrés dans leur quartier. Cette région, qui était l'un des berceaux de la civilisation et du christianisme, est maintenant un lieu où les chrétiens sont menacés, persécutés ou chassés. Les chrétiens formaient au siècle passé près du quart de la population d'Irak. 3 millions d'entre eux ont quitté le pays ces 100 dernières années. En République démocratique du Congo, les évêques ont coupé court aux spéculations qui allaient bon train depuis quelques jours. Il n'y aura pas de prêtre candidat à la présidence de la CENI, la nouvelle commission électorale nationale indépendante. La Conférence épiscopale nationale du Congo interdit aux prêtres religieux et religieuses catholiques de se porter candidats pour faire partie de cette commission. Les prêtres et religieux qui seront désignés membres de cette commission iront à l'encontre des dispositions canoniques de l'Église catholique. Au contraire, la Conférence épiscopale voudrait que les laïcs catholiques puissent jouer leur rôle. Voilà pourquoi elle est prête à en déléguer un, deux ou trois, selon les dispositions de la loi. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.